tout le monde chante contre le cancer.
Salut, c'est Laetitia, nous revoilà pour la cinquième de TLMC, en compagnie de Jean-Michel et Cathy. Bonjour à vous.
Salut Laetitia.
Salut Laetitia.
Pour cette émission, nous recevrons dans les studios de CFM, Laurie et Sylvain, bénévoles, qui nous parleront des différents projets à venir, notamment un coup de projecteur sur l'Olympia, un spectacle qui se déroulera le 17 mars à Paris. Nous passerons un petit coup de fil à Justine, une patiente de l'hôpital de Strasbourg, ainsi qu'à la représentante du service, Marie-Christine Holman. Elles viendront nous donner quelques nouvelles. Et comme chaque mois, un ange gardien nous raconte son aventure au sein de l'association. Aujourd'hui, pour nous en parler, Frédéric Lopez, qui nous retrouvera interconnu cette fois-ci. Et Cathy, en fin d'émission, pour sa rubrique Lettres, aujourd'hui deux lettres de parents et d'enfants. Belle écoute.
Soyez les bienvenus. Tu te mets le cambouis sur les mains ou tu mets le cap sur les îles. Une mauvaise note au destin ou un bon point, c'est si facile. T'es dans la rue, dans la vie. Mademoiselle, au balcon, chez vous, tout le monde. Je veux tous vous entendre. Battement de cœur, allez, plus fort.
Je voudrais qu'on fasse un bruit monstrueux, monstrueux, pour faire un petit coucou aux enfants qui sont là, s'il vous plaît.
Mette la mec, gars de la Garonne.
Salut, Pépita, où est le chéri que je la sème.
Belle marquise, Messrine, belle baronne.
Frédéric Lopez, bonjour.
Bonjour.
Alors, déjà tout d'abord, mille merci d'avoir accepté notre invitation au sein de l'émission Tout le monde chante contre
le
cancer.
C'était juste pour le plaisir d'entendre l'accent du midi, parce que moi je l'avais avant.
Ouais.
J'étais obligé de le perdre, parce que sinon j'aurais présenté la météo.
Ça fait plaisir, c'est sûr. Bon, mais c'est vrai que c'est un accent qui
non,
passe.
Non, mais j'adore, honnêtement, j'adore les accents, c'est pour ça. Donc j'adore, ça me fait plaisir de parler comme ça. Allez, on y va.
Bon, allez, d'accord. Alors, tu peux reprendre ton accent de par ici. Alors, tu sais. Je sais pas si tu te souviens, Villefranche-Rouergue, c'était pas la Mongolie, mais ça reste un petit voyage en terre inconnue, non? Pour toi?
C'était un des souvenirs les plus forts de mon existence et je pèse mes mots, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai vécu 3 jours assez incroyables avec vous.
Et tu peux,
Faut que je détaille?
Ah ouais, tant que faire. Les auditeurs attendent ça parce qu'ils se disent, bon, il y avait Frédéric Lopez à Villefranche, mais bon.
Non, je suis tellement bavard que je suis parti pour 10 minutes tout seul, donc je préfère vous laisser poser des questions quand même, les garçons, c'est pour ça. Donc, non, quand je dis ça, c'est pas une formule, c'est que j'avais été sollicité plusieurs fois, mais j'étais justement toujours en terre inconnue, et puis j'avais accepté de venir, voilà, à Villefranche, en plus je connaissais pas Villefranche, donc j'ai découvert à la fois le coin, et puis j'ai découvert les gens, et là j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais connu de mon existence, c'est-à-dire qu'il y avait 300 personnes qui étaient des bénévoles. Donc j'insiste, parce que bénévoles, ça veut dire qu'ils ne sont pas payés. Et donc l'altruisme, c'est une valeur qui n'est pas forcément toujours répandue aujourd'hui. Et tout le monde allait dans le même sens. Et tout se mélangeait. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants, il y avait des parents, il y avait des adultes qui avaient été malades avec des enfants, et des gens avec qui je suis devenu ami depuis. Il y avait des artistes que je connais pas, qui d'habitude peuvent avoir une attitude à Paris, parce qu'ils ont leur attaché de presse, leur agent, leurs avocats, etc. Ils jouent aux stars. Là, c'était pas possible. Et on en était tous au même niveau, c'est-à-dire qu'on était, il y avait un sentiment d'appartenance au genre humain qui était très très fort.
Je pense que tu as une petite histoire à raconter. Je me rappelle d'un souvenir à l'aérodrome où il y a une petite séance photo où tu étais au milieu des enfants.
Bah avec un petit Mathéo, un petit garçon qui s'appelle Mathéo, qui m'a beaucoup marqué parce que il était d'une spontanéité incroyable. Bon, il se trouve qu'il était beau. Je pense qu'il m'aurait touché s'il était moche, mais il se trouve qu'en plus il avait une tête de pub, quoi. Et c'est vrai qu'on devait faire tous les deux. On avait tous les deux la trouille de monter sur un, c'était un ULM, en fait. Et donc c'était assez drôle parce que moi je suis très très mal à l'aise. Il était hors de question de jouer la générosité devant des caméras ou devant des, des appareils photos, etc. C'est pas mon genre. Et il se trouve que, bah là on avait qu'une situation. Ça crée des liens parce que c'est une situation de trouille. C'est-à-dire que moi j'avais un peu peur de monter dans l'ULM, lui aussi. Qui m'a fait monter d'abord, etc. Et voilà, donc j'avoue que ce petit garçon m'a beaucoup, beaucoup touché. Puis le soir, il a joué avec Mathieu Gonnet, comme ça, sur scène. Il y avait presque 5000 personnes qui l'ont écouté jouer du piano. Et voilà, donc c'est des moments qu'on n'oublie pas, quoi, parce que ce petit garçon était malade, ça se voyait pas. Et quand ses parents m'ont dit au revoir, ils m'ont dit merci 10 000 fois, ils m'ont pris dans leurs bras. Et j'étais très déstabilisé, parce que je savais pas pourquoi ils me disaient merci en réalité. J'avais tellement, tellement d'admiration pour eux, pour la foi, pour la joie de vivre qui m'était dans la vie de cet enfant. Voilà, je suis moi-même papa, donc c'est impossible de ne pas s'identifier. Donc c'est vrai que ce que je trouve incroyable dans le travail de tous les gens de l'association, de Nicolas Rossignol, etc., c'est cette idée de ne jamais faire pitié. Voilà, j'aime le vocabulaire, j'aime le fait que ce soit des anges gardiens, j'aime l'idée qu'on fasse la fête ensemble. Ce sont des valeurs qui me touchent beaucoup. Moi, je suis obsédé par l'idée du lien entre les êtres humains. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un lien comme je l'avais rarement vécu dans ma vie.
D'autant plus qu'il y a eu des rencontres... Certes, avec les enfants également, mais aussi avec des artistes, je pense entre autres au Fatal Picard.
C'est vrai que moi, j'ai rencontré des gens qui sont des artistes. Encore une fois, le métier d'artiste, bon, ça veut tout et rien dire. C'est vrai qu'à partir du moment où les gens ont du succès, ça change les comportements. C'est pas souvent les gens qui ont du succès qui changent le comportement. Hein. Ce sont les gens autour. C'est-à-dire que d'un seul coup, les gens autour, si vous oubliez de les appeler, ils vous disent que vous avez la grosse tête, etc. Donc c'est des relations toujours compliquées. Là, d'un seul coup, et puis surtout, ce sont des emplois qui sont souvent démesurés. C'est-à-dire qu'honnêtement, quand on voit nos emplois du temps, quand on fait ces métiers, c'est du n'importe quoi. Voilà. Là, on était extrêmement disponible. On était là pendant 3 jours. C'est quelque chose qui ne nous arrive pas tous les jours. Et donc, d'un seul coup, on avait le temps. On avait le temps de se parler de choses très profondes. Moi, je me souviens, par exemple, en coulisses, avoir rencontré des gens de presque mon âge et tout, qui avaient été malades. Ils m'avaient raconté comment ça leur était arrivé. Voilà, c'était subi. Il y en a un qui en a annoncé qu'on allait qu'on allait lui amputer la jambe. Finalement, on lui a pas amputé. Un autre qui s'est retrouvé dans une chambre, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, les bulles. Et en fait, c'était très très facile de s'identifier et surtout ils m'ont dit des mots très forts. Ils disaient, bah par exemple, pendant tellement d'années, quand j'étais à l'hôpital, mes meilleurs amis avaient 6 ans. Et c'est une phrase que j'avais jamais entendue de ma vie, c'est-à-dire qu'en fait ils se retrouvaient à être compris, non pas par les gens d'extérieur, mais par les gens qui vivaient avec eux au quotidien, quelque chose qui est difficile à imaginer tant qu'on l'a pas vécu. Et puis il y a des moments qui m'ont touché beaucoup aussi, parce que ils m'ont raconté comment tous les jours, d'un coup, c'est arrivé, enfin voilà, tous les jours il y avait des gens qui nous quittaient. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez assez particulier, encore une fois. Hein. Je sais pas si on est armé pour vivre quelque chose comme ça, mais en tout cas, eux me disaient un truc qui m'a beaucoup touché. Ils me disaient, c'est incroyable, parce qu'il y avait ceux qui restaient et ceux qui partaient. Et finalement, ils se sont demandé eux-mêmes, est-ce qu'il y avait une différence entre ceux qui partaient et ceux qui restaient? Est-ce que, au plus profond d'eux-mêmes, est-ce qu'il y en avait qui avaient envie de se battre, envie de vivre, etc. J'ai pas les réponses, en tout cas. Mais leurs questions et leurs réponses à eux m'ont beaucoup intéressé, parce que je trouvais que c'est une profondeur incroyable. Et puis encore une fois, ce que j'ai adoré, c'était tous ces êtres humains avec leur vulnérabilité, encore une fois, qu'ils soient artistes, qu'ils soient parents, qu'ils soient enfants, etc., qui étaient ensemble pour partager 3 jours incroyables. Donc, honnêtement, j'espère être à nouveau invité à Villefranche, c'est pas une blague.
Je m'avance un peu, mais je pense que t'es accueilli les bras ouverts à Villefranche pour cet été, qui aura lieu donc le 1er et le 2 juillet. Mais à travers justement les galas auxquels tu as participé, que ce soit l'été 2009 ou Mogador 2010, et bientôt l'Olympia, quel regard tu portes quand même sur l'initiative de l'association même?
Je trouve ça, comment on appelle, je trouve que c'est un exemple en fait. c'est un exemple parce qu'encore une fois, ça vient au départ d'individus, il n'y a pas des institutions derrière ça. Parce qu'on est habitué, il y a tellement de causes dans le monde, il y a tellement de souffrances dans le monde, que finalement, quand on fait pas attention, quand on n'y prête pas attention, on a le sentiment que c'est quelque chose d'institutionnalisé. Et là, ça ne vit que parce qu'il y a des êtres vivants qui se battent, et c'est un travail colossal pour mobiliser les médias, pour mobiliser les artistes, pour trouver de l'argent, pour ne pas lâcher prise. C'est quelque chose de très particulier aussi, parce qu'il y a l'émotionnel qui fait qu'on peut s'engager comme ça pendant quelques heures, mais les gens de l'association, ils sont là tous les jours. Et donc, moi, je suis très très impressionné par ça, par cette idée qu'encore une fois, on est tous des êtres humains, et tout ce que ça veut dire, encore une fois, d'humilité, et ces gens qui sont là pour mobiliser tous les autres par leur foi, par leur enthousiasme, par leur croyance. Et j'ai vécu des scènes incroyables. Je me souviens de parents qui étaient avec une petite fille qui était dans un fauteuil roulant, qui avait l'air mal en point ce jour-là, etc. Et c'est vrai qu'elle souriait. Et les parents disaient, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas vu sourire. Je peux dire, quand vous entendez ça, vous n'oubliez pas. Je crois que je serai à la fin de mes jours, j'entendrai pas cette phrase. Et donc voilà, ces sourires-là de ces enfants-là, bon ben, on nous dit que ce sont voilà, que les artistes et la fête et la chanson et tu sais, j'ai appris que la musique était un art majeur. J'étais avec Zazie chez les Korowai, donc en Papouasie, et les gens qu'on est allés voir vivent dans la jungle, tout nus, avec un étui peignien. Ils ont même la réputation d'être cannibales, ils sont guerriers en tout cas. Et elle a joué de la guitare, elle a joué une chanson. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, ils se sont mis à pleurer. Et j'ai compris que la musique n'était pas un art mineur, mais un art majeur. C'est-à-dire que ça touche. Voilà, ça touche au plus profond de nous, quoi. Donc, cette idée de chanson, ça peut paraître dérisoire, se dire, voilà, on fait la fête un soir dans l'année, ça sert à quoi? Ben, cette mobilisation, c'est une manière de dire à tous ceux qui souffrent que, voilà, qu'ils sont pas oubliés, qu'on est là pour ça et qu'on a envie de faire la fête. Et puis, le pouvoir de la musique, je l'ai compris dans la jungle, à des milliers et des milliers de kilomètres d'ici.
Justement, la musique, on va la retrouver dans une dizaine de jours à l'Olympia. Tu dois sûrement le préparer avec Mathieu Gonnet, ou comment tu le prépares, toi? Ou comment on t'y prépare, ouais, aussi?
Alors, en fait, comme je ne suis pas chanteur, c'est un trac colossal, parce qu'il y a quand même des gens qui payent pour venir voir un spectacle. Alors, un chanteur, il est dans son élément. Moi, je suis dans mon élément ailleurs. Mais là, d'un seul coup, de me retrouver sur scène, honnêtement, quand on m'a proposé au début, j'ai dit non, parce que je me sentais pas légitime. Je savais même pas, moi, si je savais chanter ou pas. Je pense même, enfin, je pouvais, quand je chante sous ma douche, il y a un public, donc si vous voulez, je me suis retrouvé sur scène. Et puis, Mathieu Gonnet, qui est quand même un des êtres les plus gentils que je connaisse de la planète, que les gens avaient découvert dans la Starac, mais enfin voilà, il est beaucoup plus que ça. Et ce garçon m'a mis à l'aise, c'est-à-dire qu'il m'a mis avec un micro, un prompteur, des musiciens super gentils, des vrais musiciens qui sont là et qui attendent que vous chantiez. Et bon, ça m'a décomplexé. En plus, c'était pas facile parce que je me suis retrouvé la première fois à chanter J'ai encore rêvé d'elle, si vous vous rappelez, J'ai encore rêvé d'elle. Sauf que après, il y a ce qu'on appelle une voix de tête. Et la voix de tête, là, j'ai l'impression de chanter comme ma grand-mère. Je peux pas vous le faire comme ça. Enfin bon, donc c'était une expérience extrêmement stressante. Et puis le public a été d'une indulgence absolue. Donc c'est vrai que ça m'a un peu décomplexé. Mais je peux vous dire que non. Le truc, c'est que voilà, je vous retrouve avec des professionnels. Quand vous n'êtes pas professionnel, c'est classe, quoi. C'est un honneur.
Et justement, je crois que tu avais fait un super duo de présentation de spectacle avec Bruno Guillon, que je pense que tu vas retrouver à l'Olympia. Et ouais. c'était vraiment bien avec lui aussi, non? Parce que ça s'est ressenti sur scène, donc...
Ouais, Bruno Guillon, on s'est rencontrés à cette occasion, d'ailleurs. Et c'est assez incroyable, parce que, je le dis pour vos auditeurs qui le connaissent pas, mais le matin, il est sur Virgin Radio, c'est un des garçons les plus drôles que j'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que, hors caméra, hors micro, vous avez des crampes d'abdos. Tellement il vous fait rire. Des gens comme ça qui sont des machines à vanne, je ne sais pas ce qu'il y a dans son cerveau. Et c'est un garçon extrêmement drôle. Et en plus, très 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 gentil. Et donc voilà, c'est vrai que du coup, quand vous vous retrouvez sur scène à présenter quelqu'un comme ça que vous admirez, c'est un plaisir incroyable. Et en fait, on se voit pas tous les jours, parce qu'à Paris, c'est comme ça, on est des imbéciles dévorés par un emploi du temps qu'on maîtrise pas toujours. Mais à chaque fois qu'on se voit, on a l'impression que c'est quitté il y a 5 minutes. Et je lui dis un truc assez drôle, mais je pense sincèrement que si on avait été en classe en CM2, on aurait été potes. Donc moi, j'ai plus de 40 ans maintenant, mais j'ai ce sentiment, il y a une sorte de connivence, et puis c'est pas tous les jours que vous rencontrez des gens que vous admirez et qui se la pètent pas, quoi.
Bon, mais en tout cas, ça nous fera très très plaisir de vous retrouver sur la scène de l'Olympia le 17 mars à Paris, l'Olympia. Encore 1000 merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et puis on se donne rendez-vous le 17. Merci Frédéric.
Le 17, à très bientôt.
Alors avant de vous laisser le temps de souffler pour quelques minutes... Le trio qui arrive va installer dans vos têtes un refrain qui met la banane. Ce sont 3 animateurs qui vont vous mettre en joie, pas de panique, même dans l'oreillette.
3 animateurs qui ont durement répété, nuit et jour. Ils sont là, juste à côté, ils sont concentrés. Je vous demandais de les applaudir, de les accueillir comme il se doit ce soir. Sandrine Quétier, Bruno Guillon, Frédéric Lopez, qui vont nous interpréter une chanson très connue de
Frédéric's
Goldman
et Jones. Et le titre de cette chanson, c'est
1, 2, 3.
On les applaudit, s'il vous plaît.
Ça m'a pris par surprise quand j'étais qu'un gamin. Je regardais tomber mes nuits et j'en attendais rien.
Moi, Springfield, Massachusetts, la vie coulait comme de l'eau.
Un matin, j'ai pris Perpète en ouvrant la radio.
Ça s'appelait comment?
Rock'n'roll.
Toi, ça t'a fait quoi?
Et moi, ça m'a rendu fort.
En fait, t'étais comment?
Moi, j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie.
Ah oui, mais t'y comprends rien, mais ça, c'est...
Wouh! Les mains, vos cadors!
On vous entend pas!
1, 2, 3, Brady Mama. 4, 5, 6, I miss you. 7, 8, 9, can't get enough. 10, 11, 12, I ain't got the blues. 1, 2, 3, come on baby. 4, 5, 6, a kiss. 7, 8, 9, you hold my mind. 10, 11, 12, tell me when.
Il y en aurait qui soudain, pour du pouvoir, pour de l'or. Chacun sa façon de brader son art. On les plaint pour ce qu'ils ignorent.
Quand on entend la trop de Hey Joe, je comprends mieux d'autres mots.
Dans le même état que la voix d'Aretha. Ça s'appelait rock'n'roll.
Ça m'a rendu fort.
Moi j'ai rien compris, sauf que c'était ma vie.
Attention les mains, tout le monde, tout le monde.
Salut Laurie.
Salut.
Salut Sylvain.
Salut.
Vous êtes bénévole à l'association depuis quelques années. Toi Sylvain à la commission enfants. Et toi Laurie à la communication. Pouvez-vous nous parler chacun de vos fonctions et investissements au sein de l'association?
Alors oui, moi ça fait 4 ans que je suis bénévole à l'association. Je m'occupe en particulier au sein de la commission enfants des activités des enfants lorsqu'ils viennent à Villefranche pour le gala. Donc de toutes les activités extra-gala. Et puis tout au long de l'année également, avec Jean-Michel, on s'occupe des autres activités qu'il peut y avoir pendant l'année, également pour le gala à l'Olympia, des activités aussi annexes comme Disney, voilà.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as intégré cette commission?
Alors, un petit peu par hasard à la base, parce que quand je suis rentré dans l'association, en fait, je m'étais dit c'est pour être chauffeur puisque c'est un petit peu mon métier. Et puis je me suis retrouvé à la première réunion des chauffeurs où on m'a dit ben il faudra qu'il y ait des chauffeurs pour les enfants. Et je me suis d'emblée proposé pour faire ça plutôt que d'aller conduire les personnalités d'ici à l'aéroport. Voilà. C'est là que la première année, j'ai rencontré Jean-Michel qui était
également dans le même cas que toi.
Dans le même cas que moi, on débarquait tous les deux à l'association. On a été un peu largués, parachutés là, sans trop savoir ce qu'on allait faire. On s'est débrouillé malgré tout avec
Laure d'Ambrosio.
Laure d'Ambrosio, entre autres, ouais. Et avec le petit planning qu'on avait. Et puis ben, de là est née un petit peu la commission enfant à tous les deux. Et puis aujourd'hui, elle s'est un petit peu développée, même pas mal. Voilà, avec Cathy, Laetitia, Maryse, Christian, Fred. Voilà.
Et 112 hôpitaux qui ont étoffé la commission enfant.
Oui, puisqu'on était parti avec un seul hôpital au départ. Et puis ben, aujourd'hui, on a bien plus d'hôpitaux qui nous connaissent, avec qui on travaille tout au long de l'année. Et puis, on invite aussi, par exemple, à Villefranche, beaucoup plus d'enfants qu'au début, hein, puisqu'on était parti avec un hôpital et une vingtaine à peu près d'enfants. Et le gala 2010, on était à une centaine d'enfants, voilà. Donc, ça a bien évolué, oui.
Et toi, Laurie, au sein de l'association, quel est ton rôle ?
Alors, ben, moi, je fais partie de l'association depuis bientôt 2 ans et je m'occupe depuis le mois de septembre de la commission communication. Ben, d'une part parce que c'est mon métier, donc c'est un petit peu tout ce que je sais faire, je crois. Puis aussi puisqu'il y avait, voilà, il y avait besoin de quelqu'un à ce niveau-là. Alors, en quoi ça consiste ? Déjà, à essayer de communiquer, d'informer le plus grand nombre des actions de l'association, donc tout au long de l'année, et pas uniquement au moment des galas. Et puis, bien sûr, faire de la promotion pour les galas, donc de Paris et de Villefranche début juillet. Et donc plus généralement, tout ce qui concerne l'image de l'association, l'image de la marque Tout le monde chante, essayer de veiller à ce qu'elle soit cohérente le plus possible et qu'elle soit puissante pour pouvoir aider sa cause au maximum. Voilà.
Quand tu parles de communication, tu parles notamment de la presse, des partenaires.
De la radio.
Il y a plein de choses. Donc, il y a tout ce qui est communication média, effectivement. Donc, comme je disais, pour informer un petit peu de tout ce qui se passe au sein de l'association, toutes les actions, toutes les bourses qu'on remet à des familles, à des maisons de parents, etc. Il y a l'aspect média aussi pour tout ce qui concerne donc les galas, informer le grand public, des événements. Donc, après, plus généralement, il y a tout ce qui se passe aussi sur le web, avec tout ce qui est animation du web communautaire, Facebook, Twitter. Donc, je vous invite évidemment à nous suivre donc sur ces outils que vous pouvez retrouver donc via le site toutlemondechante.net. Et donc voilà, après c'est tout ce qui va concerner en fait toutes les fois où l'association prend la parole pour parler de ce qu'elle fait.
On trouve tous là que c'est beaucoup de travail. Et tu es toute seule dans cette commission ?
Alors non, bien sûr que non. Donc il y a donc Aurélie qui m'aide aussi donc pour tout ça, en relais avec Nicolas aussi. Donc Nicolas Rossignol sur Paris qui nous aide aussi beaucoup pour tout ce qui est de la communication, puisque c'est on va dire que c'est le premier porte-parole de nos actions. Voilà, puis on est aidé aussi par des prestataires et des partenaires bénévoles, donc l'agence Malice à Rodez, donc dans laquelle je travaille également et qui nous aide pour toute la partie conseil communication et puis graphisme. On a donc également la société TV Conseil sur Paris qui nous aide pour toute la partie relations presse nationale. Et après, de nombreux partenaires pour tout ce qui est médias, donc avec CFM bien sûr, avec après les imprimeurs également qui nous permettent donc de diffuser toute l'information, donc avec tous les supports papier dont on a besoin et tout ça bénévolement, voilà.
Laurie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la programmation du gala de l'Olympia qui est le 17 mars ?
Oui, bien sûr. Alors, on attend une cinquantaine d'artistes, de comédiens, de sportifs, de musiciens, etc., qui vont chanter contre le cancer avec et pour les enfants malades. Donc, parmi eux, ben déjà, on peut citer Grégoire, qui était déjà parmi nous cet été, également Chaim, Matt Pokora aussi, qui est donc un nouvel ange gardien cette année, Amaury Vassili, Quentin Mosiman, Hélène Segarra, également Jenali et Anaïs Delva, qui va donc être la vedette de la prochaine comédie musicale de Kamel Wally. On a également évidemment d'autres personnalités donc du milieu de la télévision, donc Nathalie Marquet, Bruno Guillon, Frédéric Lopez, Laurence Boccolini, Jean-Pierre Foucault, Cyril Hanouna, etc. Donc on attend encore d'autres confirmations et d'autres surprises donc qui vont compléter cette jolie liste d'anges gardiens.
Pour continuer avec l'Olympia, Sylvain, est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter le nombre d'enfants qui sont invités, même si je connais un petit peu la réponse, mais tu pourrais nous raconter, nous dire qui est invité déjà, quels sites sont invités, quand je parle site de ville, qu'est-ce qui est prévu, que ce soit pour les enfants, les parents, le jour même, le soir, le lendemain. Enfin, tu peux nous en raconter un petit peu, sans tout dévoiler, puisque je pense qu'il y en a certains déjà, des patients qui nous écoutent, qui voudraient savoir un petit peu ce qu'ils vont faire.
Oui, alors nous avons donc invité 4 hôpitaux de grandes villes de province, donc Toulouse, Bordeaux, Limoges et Nantes. Donc une vingtaine de personnes, on va dire, enfants, parents, famille. Et puis ensuite les parisiennes, donc les hôpitaux parisiennes. Donc on va avoir environ 200 enfants de Paris présents sur l'Olympia. Alors pour les parisiennes, typiquement, ce sera juste la soirée à l'Olympia, puisqu'ils sont sur place. Pour ceux qui viennent d'un peu plus loin de province, le week-end sera un peu plus long, puisque nous allons les inviter le lendemain à une journée de détente à Disney. Et puis, ils auront la chance également d'assister aux répétitions avant le gala, l'après-midi. Voilà.
Et une petite surprise pour les parents, mais je crois qu'on ne va pas tout dévoiler. Voilà. Aujourd'hui, il va attendre une dizaine de jours pour pouvoir en bénéficier.
Voilà.
Avant de terminer un petit peu notre questionnaire, est-ce que vous auriez une anecdote ou un fait marquant pendant vos galas de Tout le monde chante ?
Oh, ben, un fait marquant, une anecdote, oui, sûrement.
On veut savoir laquelle ? Entre un canot et kayak, peut-être ?
Un petit canot et kayak, oui. Mais alors, c'était un... Si je vois ce que tu veux dire, hein. C'était une petite après-midi
à la campagne,
campagne détente pour les bénévoles, où nous avons fait une petite balade en kayak sur l'Aveyron. Et ben c'est là où nous nous sommes un petit peu rencontrés avec Laurie.
Voilà. Merci. Rencontrés et puis un peu plus après comme tous les bénévoles l'ont remarqué évidemment et voilà donc je crois qu'on est
je pensais avoir été discret pourtant
on n'est pas les seuls dans ce cas et non c'est non, vrai
vous
que
vous n'êtes pas les seuls voilà, dans ce cas
l'association je pense regroupe des gens qui partagent certaines valeurs et voilà c'est peut-être ce qui explique aussi ce genre de rencontre.
Et toi Laurie, tu as une anecdote à nous communiquer
plus particulièrement? Ouais.
La même un petit peu, hein, peut-être la plus marquante personnellement. Et puis non, après je crois que c'est plus généralement les rencontres humaines que j'ai pu faire via cet engagement dans l'association, que ce soit avec tous les bénévoles, des rencontres d'amitié et avec les enfants malades, les discussions qu'on peut avoir avec eux, leur manière de voir la vie qui permet un petit peu de relativiser. Et surtout, voilà, tous ces sourires au fil des actions, des galas qu'on peut organiser.
Sylvain, tu aurais un petit message à nous faire passer ?
Oui, en fait, pas vraiment un message, mais ça me fait penser à un autre couple, en fait, qui s'est formé la même année que nous. Et en parlant de rencontres humaines, donc, je trouve cette rencontre magnifique, puisque c'est celle d'un malade de Paris qui a rencontré la sœur d'un malade de Marseille. Et donc, voilà, un couple s'est formé et ça dure toujours. Donc, ils se reconnaîtront, je pense, s'ils nous écoutent.
On les salue bien. On peut les citer, je crois que c'est Corentin et Manon.
Ah non, c'était pas ça. Oui, bien sûr. Donc, voilà, on leur fait un grand
petit coucou.
et on espère les revoir bientôt. Voilà.
Merci Sylvain, merci Laurie. On se retrouve pour l'Olympia dans quelques jours. Et bonne continuation à vous.
Merci.
7, 6, 5. Et vous finissez.
Cette émission avec Marie-Christine Holman, infirmière au CHU de Strasbourg. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Jean-Michel.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'organise tous les jours le service ? Comment ça se passe ?
Alors moi je suis infirmière dans le service d'onco-hémato de Haute-Pierre à Strasbourg et moi je travaille à l'hôpital de jour. Donc, l'hôpital de jour est ouvert de 8h du matin jusque vers 18h. Et donc, on reçoit les enfants atteints de cancer ou de maladies hématologiques. Donc, on reçoit en moyenne entre 20 et 30 enfants qui viennent ou pour leur chimiothérapie ou pour leur transfusion, pour des bilans ou des soins de cathéter. Et c'est toujours un petit peu les mêmes enfants. Et en plus de l'hôpital de jour, il y a le service d'hospitalisation qui compte 15 lits, dont 3 lits de greffe de moelle, et qui s'occupe des enfants qui sont un petit peu plus lourds et qui peuvent pas suivre leur chimiothérapie en ambulatoire.
Ce qui veut dire qu'un soin de jour, les patients ne restent vraiment que la journée. C'est juste pour les soins que tu nous as décrits.
Et en ambulatoire, ils peuvent très bien rester une heure, comme ils peuvent rester la journée, comme ils peuvent revenir tous les jours si leur état le demande. Et puis, c'est toujours un petit peu moins lourd qu'une hospitalisation parce que les enfants rentrent dormir chez eux. En général, ils préfèrent venir chez nous.
Je crois qu'une fois, dans une discussion, tu m'avais expliqué que vous aviez quand même un hôpital en plus tout neuf ou pratiquement neuf. Tu peux m'en dire un peu plus parce que je sais que pour certaines actions, tu me disais oui, tout ce qui est écran LCD, on est super équipé. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, alors on a l'hôpital a une trentaine d'années, mais on a la chance d'être dans des locaux qui ont été fraîchement refaits il y a 3 ans. Et tout ça parce que au service, nous avons une association qui s'appelle la RAM et qui essaye d'améliorer un petit peu comme votre association, l'hospitalisation des enfants. Donc le service a été entièrement refait avec des fresques faites par des artistes des Beaux-Arts. Il y a télé à écran plat, PlayStation, ordinateur portable dans toutes les chambres avec une connexion Internet.
On a des grands espaces de jeu avec des baby-foot.
Tout est bien aménagé pour les enfants, quoi.
Voilà, tout est aménagé pour les enfants.
Et les parents.
Avec des, et les parents, enfin, plus pour les enfants que les parents. Parce que dans notre service, les parents n'ont pas la possibilité de rester dormir.
D'accord.
C'est la base même du service qui est quand même un peu fermé. Donc les parents, les visites sont, ils peuvent venir quand ils veulent, les parents, mais ils ne peuvent pas dormir chez nous. Sauf cas urgent ou premier soir là, après le diagnostic. Ou... Mais donc tout a été fait pour les enfants avec des meubles colorés, ludiques. Tout a été fait sur mesure. Ensuite, tous les jeudis, ils ont la possibilité de manger McDo. Ensuite, l'association, les enfants partent en vacances une fois par an à la mer ou au ski parce avec la prof de sport, parce qu'on a la chance d'avoir une prof de sport à temps plein au service. Et donc, il y a pas mal d'actions ponctuelles qui sont organisées pour les enfants.
Justement, à ce niveau, quelle a été ta réaction lors de l'invitation sur Mogador par l'association, ainsi que sur celle de Villefranche? Est-ce que tu as dû sûrement, au téléphone, quand on t'a annoncé ce genre de projet, tu as dû nous prendre pour des fous, non?
Non, je ne vous ai pas pris pour des fous, mais ce qui était assez nouveau pour moi, et on n'a pas vraiment joué le jeu à Mogador, c'est que vous invitez la famille et la fratrie. Nous, quand on organise quelque chose, c'est pour les enfants malades. Et c'est vrai qu'on ne pense pas assez à la fratrie comme vous. Et donc la première fois, on avait emmené des adolescents et chaque fois un parent. Pour nous, c'était tout à fait nouveau, surtout sur deux jours, sur Paris. Déjà, l'esprit du concert, tout ça, tous ces gens qui se sont mobilisés, oui, c'était assez fou quand même.
Pour Villefranche, puisque tu nous expliquais pour Paris, pour Villefranche, elle a expliqué à la fratrie qu'ils allaient faire 10 heures de train et aller en terre inconnue, comme on a pu l'entendre avec notre précédent invité.
Ben, en terrain inconnu, on était tous en terrain inconnu, aussi bien la fratrie, les parents, on s'attendait à rien et on s'attendait à tout. Donc, en fait, on s'est laissé guider. Donc, déjà, quand j'ai rassemblé un petit peu le groupe, que j'ai essayé de voir qui pouvait avoir des affinités avec qui, on a constitué le groupe, on a déjà joué le jeu en prenant de la fratrie, pas des enfants trop petits. Donc, déjà, le voyage des 10 heures, c'était l'aventure. Donc, il n'y a pas eu trop de soucis, qu'il n'y a personne qui a dit, en 12 heures de train, ça va être de trop, on va être fatigué. Pas du tout. Ça a été pris comme une aventure un peu extraordinaire. Donc, le groupe La Mayonnaise a pris tout de suite à la gare. Ils se connaissaient, il y en a qui se connaissaient, il y en a qui se connaissaient pas. Et donc, ça a été formidable. Dans le train, l'ambiance était extraordinaire. Il n'y a pas eu... Non, les 10 heures de train ont été très bien vécues parce que ça faisait déjà partie. On était déjà en vacances et on s'est laissé surprendre tout le long. Donc, on n'a pas du tout eu d'a priori. Voilà.
Y a-t-il eu après des réactions à votre retour ou même au sein de l'unité de Strasbourg? Est-ce que ça a communiqué, je présume, mais qu'est-ce qui en est ressorti de tout ça?
Bah, déjà, au niveau de l'unité, on n'a pas trop fait de pub parce que nous, on avait tellement envie d'y retourner qu'on n'a pas envie que quelqu'un d'autre dise « Ah ben non, cette année, c'est moi qui y vais ». Mais après, ça a soudé le groupe de ceux qui étaient partis. Ça a été super. Ils en ont parlé aux autres malades, mais pas trop non plus pour pas provoquer d'envie ou de... En fait, ils sont assez pudiques. Donc, entre eux, le groupe qui est parti, ils ont beaucoup parlé. Au retour dans le train, il y a Nicolas qui a 14 ans et ses deux sœurs. Ils ont pleuré tout le long du retour parce qu'ils n'avaient pas envie de quitter le groupe, parce qu'ils restaient dans le train pour aller sur Mulhouse. Donc, l'émotion était très forte dans le groupe. Mais si, moi, j'ai partagé avec mes collègues, il y en a plein qui ont envie de venir, quoi, et de vivre ce qu'on a vécu.
Justement, vous allez revenir cette année, on te l'annonce tous.
Oui, avec c'est bien, merci.
Avec de nouvelles familles, mais très exceptionnellement, une famille reviendra. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bah, ça, on a quand même le retour de l'Aveyron a été très difficile parce que on a une grande jeune fille de 20 ans qui a une leucémie et qui commençait à être un petit peu douloureuse à Villefranche et on a essayé de faire avec les moyens du bord. Et en rentrant dans le train, une petite idée qui commençait à me perturber un petit peu en me disant peut-être qu'elle est en rechute. Donc, c'était très improbable parce que vu la leucémie qu'elle avait, elle guérisse à 94%. Donc, c'était très peu probable. Et donc, je lui ai demandé de venir tout de suite le jeudi au service. Et jeudi après-midi, en faisant le bilan, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était une rechute. Donc, cette jeune fille a tout de suite été hospitalisée le lendemain du retour. Et donc, a eu de la chimiothérapie et a été greffée au courant du mois de novembre avec sa sœur. Une greffe de moelle osseuse avec sa sœur. Et en fait, ce qu'il a tenu tout le long, ce qu'il a fait tenir tout le long de ce traitement, c'était déjà le souvenir de l'Aveyron, parce qu'on en a parlé tous les jours, et peut-être la possibilité d'y retourner. Et c'est vraiment ça qui l'a fait tenir. Hein. On en a parlé tous les jours. Et pour vous expliquer à quel point le groupe était soudé, donc cette jeune fille a été hospitalisée tout de suite, le jeudi en revenant, est restée hospitalisée 2 mois, a pu sortir 3 jours, 3 petits jours avant de retourner en service d'hospitalisation. Et pendant le long, elle est sortie un mardi, et le mercredi, tout le groupe est allé manger au restaurant, alors qu'il y avait des enfants qui venaient de 150 km de Strasbourg. Ben non, ils ont tous fait l'effort, on s'est tous retrouvés en terrasse avec un petit resto pour fêter sa sortie de l'hôpital. Voilà. Et t'as d'ailleurs envoyé une photo à Jean-Mi.
Tout à fait.
En te demandant pourquoi t'es pas venu avec nous. Voilà.
Et oui, je devais monter avec de la Ligo, tout à fait. Je me rappelle très bien.
Voilà, avec de la Ligo.
Marie-Christine, merci d'avoir répondu à nos questions. On se donne donc rendez-vous le 1er et le 2 juillet à Villefranche-de-Rouergue pour ce gala avec tout ce groupe de Strasbourg. Et justement, on va essayer de joindre Justine pour aussi lui annoncer la bonne nouvelle. Et
d'accord.
Puis, à très bientôt. Au revoir.
D'accord, merci. Au revoir. I feel good. I knew that I would now. I feel good. I knew that I would. So good. So good. I got you. I feel nice. Like sugar and a smile.
Comme promis, nous avons Justine au téléphone. Bonjour Justine.
Bonjour.
Justine, très heureux de t'avoir au téléphone. Je sais que tu as eu quelques petits soucis de santé. Mais comme nous le disions à Marie-Christine tout à l'heure, si on t'appelle, c'est justement pour t'annoncer quelque chose. C'est... Tu es prête à revenir à Villefranche?
Plutôt de Fakim.
Tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui s'est passé déjà sur Villefranche pour toi?
C'est plein de bons souvenirs. Les montgolfières, le jet ski, les ULM, les concerts.
Que de super souvenirs pour toi, quoi, Villefranche.
Exact.
On a le plaisir, donc Laetitia, Cathy et moi-même, de t'annoncer que tu serais parmi nous cet été également. Voilà, c'était juste un petit coup de fil pour t'annoncer ça.
C'est super.
Bon, je crois qu'on va pas te déranger plus longtemps. Je crois que tu es dans ta petite chambre. Voilà, tu embrasses bien tout le service. Et puis, on te dit à Villefranche.
À Villefranche.
Bisous, ciao.
Bisous. Foule sentimentale. Soif d'idéal. Attirée par les étoiles, les voiles. Que des chose pas commerciale. Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. Comme on nous parle.
Allez Nicolas, au revoir.
On nous Claudia Schiffer. On nous pollue sous l'Isère. Ah, le mal qu'on peut nous faire, ah oui.
Docteur Langlois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue à l'hôpital de Villefranche-de-Rouergue. L'endocrinologue est un médecin spécialiste de la prise en charge des maladies liées aux hormones et aux glandes. On parle de médecin spécialiste en endocrinologie et métabolisme. Pourriez-vous nous en parler un peu plus ?
Alors, l'endocrinologie est la spécialité qui s'occupe des glandes à sécrétion endocrine, ça veut dire à l'intérieur du corps. Les glandes fabriquent des messagers chimiques qui déclenchent des mécanismes. Et c'est très important les glandes, parce que si vous n'avez pas les glandes, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de masculinité, il n'y a pas de métabolisme, c'est-à-dire les systèmes énergétiques ne fonctionnent pas. La réaction au stress, celle qui permet de s'échapper du trou quand le crocodile vous a mordu la jambe, ne fonctionne pas. Donc tout ça c'est très très important. La croissance ne fonctionne pas. Donc les glandes c'est un système qui existe dans les espèces animales très tôt, bien avant les systèmes nerveux. Et donc c'est quelque chose de très important, les glandes. Quant au métabolisme, le métabolisme c'est tout ce qui... Quand c'est pas de la cardiologie, de la pneumologie, les spécialités connues, que c'est un peu bizarre et compliqué, ben c'est du métabolisme. Par exemple, le diabète est une maladie métabolique. Le fait d'avoir trop de cholestérol, c'est une maladie métabolique. Le fait d'avoir de la goutte, c'est une maladie métabolique. Mais on a énormément de maladies rares, de maladies orphelines, de maladies qu'on trouve en pédiatrie. Les pédiatres souvent les trouvent avant, parce qu'il suffit d'avoir sur quelques étapes qui fabriquent des choses qui sont indispensables à la vie, il suffit d'avoir des anomalies d'enzymes qui sont fabriquées par des gènes pour que on puisse avoir des maladies. Donc nous on a pratiquement près de 50% des maladies orphelines, voilà, dans notre spécialité. Il y a énormément de maladies métaboliques. C'est la partie la plus difficile, mais en fait comme ça correspond chaque fois à très peu de cas, bah, les gens ils sont pas très au courant. Quand vous avez une pneumonie, tout le monde sait ce que c'est. Mais quand vous avez une phénylcétonurie, personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, à la naissance, on dépiste systématiquement la phénylcétonurie, qui est une maladie qui, si on ne la traite pas, donne des retards mentaux et des choses très graves chez les enfants. On dépiste aussi systématiquement l'hypothyroïdie à la naissance. Ça fait partie des maladies qu'on dépiste à la naissance, parce que si on ne traite pas tout de suite les nouveau-nés, eh bien, ils vont avoir un retard mental, un retard de croissance très important. Voilà. Donc, ça fait partie, finalement, des choses qu'on fait systématiquement à la naissance. En ce qui concerne les cancers, eh bien, toutes les glandes peuvent avoir des cancers. Mais en général, on a beaucoup de chance dans notre spécialité, parce qu'on a des cancers plutôt sympas. Par exemple, quand quelqu'un a un cancer de la thyroïde, c'est pas très fréquent, c'est moins fréquent que le cancer du poumon, enfin, vous savez sans doute, puisque d'autres médecins de Villefranche sont passés avant moi, que actuellement les cancers les plus fréquents, ce sont les cancers du sein chez la femme, le cancer de la prostate chez l'homme, mais par contre les cancers qui tuent, et le côlon dans les deux sexes. Mais par contre le cancer qui tue le plus, c'est le cancer du poumon, alors qu'il est beaucoup moins fréquent. Voilà. Eh bien, nous par exemple, en fait on en a beaucoup de gens atteints d'un cancer parce qu'ils ne meurent pas. Donc quand on regarde nos listes depuis des années et des années, on sait que les gens, ils ont souvent, en ce qui concerne par exemple la thyroïde, qui est un des cancers des glandes les plus fréquents, eh bien les gens en général, on les dépiste tôt, parce qu'on a des examens performants. L'échographie par exemple voit des petits nodules de quelques millimètres, hein, donc on les dépiste tôt, on les traite très tôt. Et on peut dire à quelqu'un qui a un cancer de la thyroïde que dans l'immense majorité des cas, 35 ans après, les gens sont aussi vivants que ceux qui n'en ont pas eu. Voilà.
Donc c'est un cancer qui se soigne très très bien, quoi.
C'est un cancer qui se soigne très très bien. Il y a des formes très rares de cancer de la thyroïde qui sont un peu plus difficiles. Mais ce sont des formes très rares dont on n'a pas... Ça correspond à 1% des cancers de la thyroïde.
Et justement, le 26 avril 1986, Tchernobyl est passé par là puisqu'il s'est arrêté aux frontières des Alpes. Il y a eu sûrement un accroissement des taux de cancer.
Il s'est arrêté à la frontière française.
Bien sûr.
Parce que vous savez qu'en France, nous avons des hommes politiques extraordinaires, on l'a bien vu récemment, n'est-ce pas, qui nous empêchent, qui nous protègent de tous les malheurs. Non, je rigole. Donc, ce qu'on peut dire vis-à-vis de Tchernobyl, c'est qu'il y a eu une étude. Le nuage est passé beaucoup, pas mal dans la région du nord-est de la France, Haut-Rhin et Bas-Rhin. Il y a eu une étude qui a été faite justement en pédiatrie, parce que les cancers de la thyroïde touchent aussi les enfants. Et il y a eu une étude donc, qui a été faite dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'est-à-dire en gros Strasbourg et Colmar. Et cette étude a montré, en fait, il y a deux types de cancers de la thyroïde qui sont assez bons tous les deux, l'un un peu moins bon que l'autre. Il semblerait, et c'est un peu ce qui est amusant, qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation globale des cancers de la thyroïde et que celui qui est le plus mauvais est moins diminue en fréquence alors que le bon augmente. Mais ce n'est pas lié à la radiation parce que pour avoir un risque de cancer de la thyroïde, il faut une très forte irradiation. L'irradiation de Tchernobyl, lorsqu'elle a été diluée à 3000 km, c'est ce qui se passe, c'est que c'est de l'iode radioactif. Et par contre, quand vous donnez à une population de l'iode, eh bien vous augmentez, vous diminuez le risque du plus mauvais cancer, vous augmentez le risque du bon. Voilà, en gros. Ce qu'on peut dire, actuellement, la seule étude qui a été faite, donc l'histoire de Tchernobyl et des cancers de la thyroïde, on ne peut pas dire vraiment que le cancer de la thyroïde est un cancer qui augmente. C'est un cancer qui est dépisté beaucoup plus tôt parce qu'on a des examens beaucoup plus performants. Mais on sait depuis très longtemps traiter les cancers de la thyroïde. En fait, ça fait 30 ans qu'on traite bien les cancers de la thyroïde. Pourquoi ? Parce que justement, il y a quelque chose qui est particulier. C'est que la thyroïde a la capacité à fixer l'iode 1000 fois plus que tout autre tissu. Et que si jamais on envoie de l'iode radioactif, il va se fixer sur les mauvais tissus et il va les brûler, en respectant même les autres tissus. Voilà, c'est un peu une particularité. C'est pour ça qu'on a des moyens pour traiter depuis très longtemps. On fait de la radiothérapie, si vous voulez, dans les cancers qui sont un peu sévères, hein, parce que dans les cancers qui ne sont pas trop méchants, quand ils sont petits, inférieurs à 8 mm, eh bien on ne va pas enlever toute la thyroïde, mais dans les cancers qui sont un peu envahissants, eh bien, on a les moyens de traiter avec une radiothérapie métabolique, c'est-à-dire que l'iode va aller se fixer sur le mauvais tissu et va tuer que le mauvais tissu et pas le reste du corps. Voilà. C'est ce qui est un peu particulier. Alors, il y a aussi des cancers des autres glandes. Il n'y a pas de cancer au niveau de l'hypophyse, sauf des tumeurs un peu rares chez l'enfant, mais ce n'est pas vraiment des cancers. Il y a des cancers au niveau de la surrénale, qui sont heureusement rarissimes parce qu'ils sont très mauvais. Et puis, autrement, globalement, il y a assez peu de cancers dans les glandes.
Monsieur Langlois, avant de terminer, est-ce que vous auriez des conseils à communiquer aux auditeurs ?
Ce qu'on a vu depuis une vingtaine d'années, quoi, une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est que les médecins sont beaucoup plus vigilants pour dépister les maladies thyroïdiennes. C'est-à-dire qu'avec une simple prise de sang, on dépiste les dysfonctionnements, c'est-à-dire que lorsque la glande fonctionne trop ou pas assez, et l'échographie est un examen facile, peu onéreux, très performant, qu'on réalise facilement parce que on sait que dans la population, surtout à l'Aveyron, en Ariège, dans certaines vallées alpines, il y a plus de preuves de pathologie thyroïdienne. Donc les gens ont cet examen assez facile, donc on dépiste des formes précoces. Voilà. Autrefois, on dépistait des formes tardives, et là, on dépiste très vite et très tôt des formes précoces.
Voilà. Docteur Langlois, merci d'avoir accepté notre invitation. Un peu de musique avant de se dire au revoir.
Like the river Jordan, and I wouldn't say to thee, you are my friend.
carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Will you be there?
Tell me, will you hold me when wrong will you scold me? When lost will you find me? But they told me a man should be faithful and walk when not able and fight till the end. But I'm only human.
Deux lettres à vous lire, une de Mélissa et une de Virginie, la maman d'Océane et Léa. Je vais commencer par Mélissa. C'était la première fois que nous étions invités par Tout le monde chante contre le cancer. Après un an de maladie, ces 5 jours passés en votre compagnie étaient merveilleux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, le concert, le château, l'organisation, tout était magique. Un grand merci aux bénévoles, un grand merci à Nicolas Roussignol, Sylvain, Jean-Michel et tous les autres. Un week-end extraordinaire entouré de gens merveilleux qui resteront gravés dans nos cœurs. Merci, merci pour tout. Gros bisous, Mélissa et ses parents. On continue cette lecture avec la lettre de Virginie, maman d'Océane et Léa, qui a quelques petits messages à faire passer. Depuis que nous venons à Villefranche-de-Rouergue, nous arrivons à retrouver le sourire. Nous oublions le quotidien, traitement, hospitalisation et tout ce qui va avec. Je me souviens de notre première fois en avion, oh la trouille. Mes filles super contentes, tout ça grâce à vous. Et le concert, quand je vois Océane qui s'éclate, qui rit, qui danse, elle est trop géniale, le sourire plus grand que sa bouche trop fort. Océane se fait une joie à chaque fois de venir à Villefranche et cela ravit les bénévoles, car ils la trouvent changée en forme et qu'elle progresse. Cette année, elle a fait du poney toute seule et elle m'a dit « Tu sais maman, je suis grande, tu peux me lâcher ?» C'est avec les larmes aux yeux que je lui ai dit « Oui ma grande ». Léa aussi est à nouveau contente, car on se retrouve ensemble, pas à la maison, mais à la ville du bonheur. Car c'est grâce à vous et aux centaines de bénévoles que nous sommes si contents. Vous avez la magie à Villefranche, une telle envie de faire changer le quotidien aux jeunes patients. Villefranche est un traitement homéopathique, à base de gentillesse et de dévouement. Dans la limite du possible, vous arrivez toujours à trouver une solution à nos problèmes et nous vous en remercions. J'espère que ça continuera encore et encore et que notre amitié durera jusqu'à la fin des temps. Mille merci à vous, à Nicolas, à tous les bénévoles. Gros bisous à vous tous et bon courage, Virginie, Hervé, Océane et Léa. Merci à tous.
Merci Cathy, voilà TLMC l'émission, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de CFM. Quant à nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une spéciale Olympia. Vous pourrez découvrir les coulisses du gala avec Cathy et de nombreux enfants qui auront beaucoup de questions à poser aux anges gardiens. Je vous rappelle que vous pouvez adresser vos dons à Tout le monde chante contre le cancer, BP 275 12202, Villefranche-de-Rouergue. À très vite.
Au mois prochain, au revoir.
Salut à tous.